Chaque vendredi de 19h15 à 20h, Radio Capi vous propose la tribune de la presse. Analyse, explications et débats autour de l'actualité de la semaine avec les journalistes de la presse écrite et audiovisuelle. La tribune de la presse, vendredi de 19h15 à 20h, un résumé complet de l'actualité de la semaine. Une émission à réécouter sur internet, radiocapi.net.
Bien, nous parlons à présent des nappes phréatiques, la pollution des nappes phréatiques. Comment prévenir cela? Les nappes phréatiques sont de plus en plus exposées à la pollution en provenance de la surface. Et l'urbanisation, je disais tout à l'heure, l'urbanisation, l'industrie, l'agriculture, les pesticides, les rejets toxiques, l'exploitation minière contaminent les eaux souterraines, d'après les experts. Alors comment, qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui pour prévenir cela? Théodore Lukakao est chargé d'études en environnement au ministère provincial du Plan et Travaux publics, ville de Kinshasa, il est expert en environnement. Encore une fois, bonjour.
Bonjour.
La première question, c'est celle de savoir qu'est-ce qu'on entend par nappe phréatique.
Bien, la nappe phréatique, c'est la zone d'eau, je pourrais appeler ça comme ça, qui est à quelques mètres de la surface du sol.
Parce ce sont les eaux souterraines.
Bon, nous avons deux types de nappes. Il y a la nappe phréatique qui est à quelques mètres du sol, et nous avons la nappe profonde. Donc, qui est emprisonné entre des roches imperméables dans les sous-sols.
Et comment cette eau se retrouve là?
Bien sûr, par infiltration. L'eau de pluie tombe, une partie s'infiltre, une autre ruisselle, et en s'infiltrant, elle va se stagner à un certain niveau, et à quelques mètres du sol.
Et maintenant, comment cette eau va remonter? Elle va rester là pour toujours, ou bien on peut la récupérer?
Elle reste là, on la récupère en creusant des trous. Avec un seau, on peut la récupérer. Dans plusieurs parcelles dans les communes de Kinshasa, si nous prenons les communes de la Plaine, quand nous entendons communes de la Plaine, c'est dans les communes de Lingwala, Kinshasa, Barumbu, Gombe. Donc cette situation-là est qu'on a des nappes phréatiques dans cette zone.
Ok, et pour recueillir l'eau, on creuse.
On creuse,
on fait des puits.
Oui, on forme un puits de quelques mètres de profondeur, et avec un seau, avec une corde, on peut tirer de l'eau. On peut avoir de l'eau.
Mais on voit aussi dans certains quartiers des sources, l'eau jaillir de quelque part du sol, et puis voilà, on peut dire qu'il s'agit également des nappes.
L'eau provenant de nappes. Elle provient d'une nappe, certainement. L'eau qui sort sur une source provient d'une nappe souterraine. À ce moment-là.
Voilà. Et comment s'est fait la pollution? On parle aujourd'hui de la pollution des nappes. Comment elle s'est fait?
Bien, la pollution, c'est qu'il y a présence de substances dans l'eau qui sont nuisibles à la santé des êtres vivants. Et à des taux, à des quantités très élevées, le plus souvent nocifs, quoi, dès que l'essai de la pollution est atteint. Alors, cette pollution, comme vous l'avez déjà indiqué au début de l'émission, a des origines d'urbanisation, d'origine agricole, d'origine industrielle, et aussi d'un certain comportement social des gens, des habitants. Nous avons ici à Kinshasa, dans certains coins de la capitale, des bistrots, des bars, qui n'ont pas de toilettes. Et vous comprenez, quand des gens veulent se soulager, c'est dans la rue,
dans la nature.
Dans la nature, et ces eaux vannes vont s'infiltrer. Et si la nappe est à quelques mètres, certainement qu'elles vont atteindre la nappe phréatique.
Les urines vont
Atteindre la nappe phréatique. Et si l'individu est malade, elles peuvent contaminer la nappe.
Ok.
Il y a aussi le cas de déchets. Quand nous avons des déchets entreposés dans une décharge sauvage quelque part, nous voyons tout au long de nos rivières. Et à ce moment-là, dès qu'il pleut, les lixiviats, donc l'eau qui résulte de la décomposition de ces déchets, va aussi s'infiltrer et atteindre la nappe qui est à quelques centimètres, à quelques mètres de la surface du sol. Et nous avons aussi le rejet des eaux de ménage. Après usage, après nettoyage et tout ça, les ménages jettent leurs eaux sur la rue et ces eaux aussi s'infiltrent dans les champs.
Généralement, il y a des rigoles.
Il y a des rigoles, mais ce n'est pas, on n'a pas des rigoles.
On appelle à Kinshasa terrassé.
Oui, mais ce n'est pas dans toutes les rues de Kinshasa. Donc, quand vous circulez dans certaines communes, vous verrez que c'est sur des grandes avenues qu'on a des rigoles, mais ce n'est pas partout. Et à ce moment-là, ces eaux, en s'infiltrant, vont aussi polluer la nappe. Donc c'est ça un peu la situation qu'on a dans la ville de Kinshasa, qui est répandue dans la ville de Kinshasa. Alors, il y a.
Et aussi... la nappe se trouve à quel combien de mètres?
Bon, ça dépend.
Exactement.
Bon, ça, ce n'est pas une situation uniforme. Hein. Cela dépend de la structure verticale du sol dans une partie considérée de la ville.
Et il semble que ça dépend. Il y a certaines zones qui sont humides. Dès que vous creusez, vous voyez qu'il y a de l'eau. Il y a l'humidité, c'est qu'il y a la présence de l'eau.
Bien sûr,
en permanence.
Oui, c'est que la nappe n'est pas très très profonde.
Elle n'est pas trop profonde.
Quand vous longez les surfaces le long de le berge le long de la rivière Angile ou le milieu environnant la rivière Angile, vous avez la même situation. Nous prenons le cas du quartier des Bonhommes. Vous trouvez cette situation. Quartier Salongo, Ndanou et autres.
Donc, dès que vous creusez quelques mètres, vous avez de l'eau.
Même un mètre ou même quelques centimètres, l'eau commence à jaillir.
Nous avons les auditeurs en ligne. Omar Kigalo est à Kinshasa et Antoine Moupépé est de Bukavu, au sud Kivu. Omar Kigalo, bonjour.
Bonjour, Jody Kassamé. Bonjour à l'invité.
Bonjour.
On vous écoute.
Merci beaucoup, Jody. Je suis très content de cette émission car nul ne peut ignorer que l'environnement, lorsqu'il est mal fait, la vie humaine n'est plus possible. Voilà pourquoi en son temps, la déclaration de Rio de 92 avait prévu quatre principes et j'aimerais que l'invité, s'il a lieu, puisse l'expliquer. Le principe de prévention qui oblige à tout citoyen de prendre des mesures pour ne pas polluer l'environnement. Et le principe de pollueur-payeur, tout celui qui pollue doit payer. Et puis il y a le principe de participation. Il est demandé à toutes les couches sociales de participer, n'est-ce pas, aux décisions environnementales. Mais notre grande désolation, c'est qu'il y a un défaut d'éducation environnementale dans notre pays. Et je voudrais demander à l'invité qui est parmi les autorités environnementales d'organiser des cours d'éducation environnementale. L'environnement est un domaine très complexe que les peuples ignorent. Une chose qui les demande, c'est de respecter l'environnement, mais ce serait mieux d'expliquer aux gens quel est le bien fondé du respect de l'environnement. Et cela passe par la vulgarisation. Aussi, il y a un manque de contrôle, je dis. Il existe par la loi une police environnementale, mais cette police ne fait absolument rien. Alors, je pose ma première question. Quelles sont les conséquences exactes ou les dangers exacts de la pollution de la nappe phréatique? Parce que l'invité a dit quand est-ce que ça peut polluer, mais quels sont les dangers? Quelles sont les maladies dont on peut être exposé? Deuxième question, quelle est la politique du service dont l'invité chapeaute en matière de protection de l'environnement ou de la pollution des nappes phréatiques? Voilà ma préoccupation, je dis, et excellent début de week-end à vous tous.
Et à bien, merci Omar. Antoine Moupépé, vous êtes à Bukavu, bonjour.
Radio Kati, je suis à Bukavu. J'aimerais savoir, dans le territoire d'Arou, ça c'est la province orientale,
oui.
Il y a des sociétés tabacistes qui se sont placées il y a une décennie et elles utilisent des engrais NPK, contenant de l'azote, du phosphore et aussi des potassium. Alors j'aimerais savoir après combien de temps on fait remarquer la pollution de la nappe phréatique et aussi quelles peuvent être les conséquences sur la santé et aussi comment les prévenir.
D'accord, merci Antoine. Théodore Lokakao.
Au premier auditeur, nous pouvons dire que la pollution de la nappe peut certainement avoir des conséquences sur les individus. Si c'est une pollution infectieuse, c'est-à-dire que des micro-organismes pathogènes s'infiltrent dans les sols à travers les eaux usées, ils vont certainement polluer cette eau, et si quelqu'un prend cette eau et ne la traite pas avant de la boire, je crois que le problème sera que l'individu sera malade. Alors bon, il y a différentes maladies hein, d'origine hydrique. Il peut aussi avoir, par exemple, des vers. Il peut avoir la fièvre typhoïde, etc., etc. Donc la pollution des nappes phréatiques qui est utilisé pour des usages domestiques, peut rendre malades les individus si cette eau n'est pas polluée. C'est ainsi que même pour une source, dès qu'on veut exploiter une source, la première des choses, c'est de voir les caractéristiques bactériologiques de cette eau. Si elle n'a pas de bactéries qui peuvent contaminer les gens, à ce moment-là, on peut l'utiliser. Dans le cas contraire, on va conseiller que cette eau soit d'abord bouillie, soit traitée avant de l'utiliser.
Alors Antoine de Bukavu nous parle revenons d'abord à Omar, il a parlé aussi des maladies, et puis quelle est la politique de votre service du ministère provincial du plan et travaux publics dans le cadre de la protection de l'environnement. Dans les et cas... surtout dans ce domaine de la protection des nappes phréatiques.
Oui, dans le cas de l'environnement, au niveau du gouvernement provincial, il y a eu d'abord la création de la régie d'assainissement et des travaux publics de la ville de Kinshasa. Cette régie est en train de faire un travail, est en train d'abattre un grand travail pour qu'il y ait une couverture suffisante d'assainissement de la ville. Et il y a différents contrats qui sont en train d'être signés avec des partenaires pour que celle-ci puisse couvrir toute la ville en ce qui concerne les travaux d'assainissement. Nous avons eu aussi l'Union européenne qui accompagne le gouvernement provincial de la ville de Kinshasa dans son projet PARO, programme d'appui à la réhabilitation de l'assainissement urbain, pour que la ville devienne plus saine et que tous les déchets solides soient évacués suffisamment. Il y a la création de la décharge finale d'Impasse qui reçoit plusieurs tonnes de déchets de la ville. Tout ça contribue à améliorer tant soit peu les conditions d'assainissement.
Mais le fait d'enfouir les déchets, est-ce que cela n'affecte pas les nappes phréatiques?
Bien sûr, pour enfouir les déchets, on doit prendre certaines précautions pour que les lixiviades, donc les eaux qui résultent de l'enfouissement, ne puissent pas s'infiltrer et polluer aussi la nappe. Donc il y a des précautions qui sont prises au niveau du centre d'enfouissement technique d'Impasa.
Est-ce que ces précautions seront toujours prises?
Bien sûr, on doit faire toujours un contrôle régulier pour s'assurer que les précautions prises, les mesures prises sont toujours assurées pour protéger la nappe.
Voilà. On doit s'assurer, mais est-ce que ce contrôle est fait? Voilà, il y a plusieurs questions qui
peuvent
revenir.
Bien sûr, ces contrôles sont faits régulièrement.
Régulièrement. Impasa précisément.
Oui, Impasa au centre d'enfouissement technique.
Bien. Ogi Bendelo nous appelle de Kikwit dans la province du Wanunu. Bonjour Ogi.
Bonjour Jody, je salue aussi notre invité. Merci et bon début de week-end à tous. Merci Jody. J'ai bien suivi mon précédent Omar Kigalo que je salue aussi en passant. Par rapport à ce qu'il a dit, je veux aussi poser la question à notre invité qu'il puisse avoir aussi un langage clair à m'expliquer.
Désolé, il n'est plus en ligne, on l'a perdu. Ça s'est coupé, on va peut-être le retrouver plus tard. Alors, revenons à Antoine de Bukavu qui a parlé des engrais, ceux qui utilisent les MPK dans l'agriculture, et cela peut aussi affecter, peut contaminer les nappes phréatiques.
Oui, mais cela dépend du degré de toxicité de ces engrais et de leur teneur dans les eaux polluées. Donc, combien de temps ça peut mettre? Bon, si ces engrais s'infiltrent, c'est un problème de vitesse d'infiltration. Si ces engrais s'infiltrent filtre à une certaine vitesse qu'ils peuvent atteindre la nappe dans peu de temps, certainement l'eau sera polluée dans peu de temps. Et le degré de toxicité de ces eaux va aussi réagir sur la santé des individus.
Alors comment prévenir cela, surtout dans les domaines de l'agriculture?
Bon, dans les domaines de l'agriculture, c'est question de prendre des précautions par rapport à la nappe. Maintenant, on parle de créer des parcs hydrogéologiques, c'est-à-dire des zones où les activités agricoles, industrielles ne seront pas faites, afin de protéger la nappe qui est utilisée pour les besoins domestiques et autres. Donc, ce sont des idées qui sont en train de naître par-ci par-là et qui sont d'ailleurs en train d'être réalisées.
Alors donc on peut dire que la meilleure prévention, c'est d'avoir un environnement sain.
Bien sûr, un environnement sain où les activités polluantes devront être interdites.
Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Hein.
Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui parce que les contrôles sévères, sérieux, là-dessus ne sont pas encore faits.
Mais prenons par exemple les cas des zones minières. Dans les zones minières, on dit que l'eau et la nappe et les nappes sont vraiment contaminées, régulièrement polluées.
Oui, pour la RDC, la zone de pollution la plus élevée, c'est la zone minière ou les zones minières, notamment au Katanga, à l'est du pays.
Oui.
On trouve une pollution très très élevée à cause du traitement de minerais avec les eaux souillées par les minéraux, par les produits toxiques à haute teneur de toxicité. Cette eau-là est jetée sans des précautions, sans être traitée. Et ça pollue la nappe. Et il y a des réels problèmes de santé publique dans ces zones-là, aujourd'hui.
Voilà. Et comment s'est fait cette pollution avec dans les zones minières?
Bien sûr, vous avez des métaux lourds tels que le plomb et autres, arsenic et autres, candium, barium qui ingurgité dans les corps à un certain taux peuvent nuire à la vie de l'homme. Et ces minéraux, vous les trouvez dans tout l'est du pays, au Katanga. Et quand les gens...
Donc les gens qui consomment l'eau au Katanga sont souvent exposés.
Et il y a des cas de maladies qui sont parfois mortelles dans ces milieux.
Rachel Ndjounjou est en ligne depuis Siro. Bonjour Rachel.
Allô, bonjour.
Quelle est votre question?
Oui, j'ai trois petites questions pour cette invitée. La première question, je voudrais savoir si quel est le rôle ou l'importance de la nappe pour l'environnement. Et la deuxième question, je voudrais dire, en parlant de la protection, de protéger la nappe, comment ça se fait? On les protège comment? Et pour finir, je voudrais savoir si comment on saurait que, parce qu'on dit que c'est quelque chose qui est sous sol, comment on saurait qu'ici il y a la nappe ou quoi ou comment? C'est un peu ça.
Bien, merci. Théodore.
Bien. Le rôle de la nappe.
L'importance.
C'est un élément du cycle de l'eau. Donc l'eau dans la nature se retrouve sous différentes formes. L'eau se retrouve dans les sols, dans la nappe phréatique, dans la nappe souterraine ou captive, au niveau de l'atmosphère, dans la vapeur d'eau qui est dans l'atmosphère, au niveau des nuages, et, ou dans les plantes, et même dans le corps humain, et dans les êtres vivants, etc. Donc on appelle ça le cycle de l'eau. Donc c'est un élément du cycle de l'eau. Donc, il participe au mouvement de l'eau dans la nature. Donc,
comment s'est fait ce mouvement? Pouvez-vous décrire un peu ce
donc,
cycle?
Nous pouvons partir de l'évaporation d'un cours d'eau, d'une nappe, enfin, disons, d'une rivière. Mm-hmm. Et l'eau s'élève. En s'élevant, cette eau se condense, forme des nuages qui, devenant lourds, tombent.
Sous forme de pluie.
Oui. En tombant, une partie d'eau rentre encore dans les sols, va dans la nappe phréatique, et cette nappe phréatique dans le sol va couler, l'eau qui est dans cette nappe va couler pour sortir sur une source, et de cette source, elle répare à la rivière et le cycle est bouclé. Il y a bien sûr les plantes qui participent à la respiration aussi et qui donnent une certaine quantité d'eau dans ces cycles. Quand vous les coupez, vous réduisez la quantité d'eau produite et il y a risque même de sécheresse.
Voilà. Et il dit comment protéger ces nappes.
Mais comment protéger, comment donc, les protéger? Éviter que de faire des activités polluantes qui peuvent infiltration polluer la nappe. Donc c'est la meilleure protection. Ou alors, bien sûr, créer des zones tampons, comme on peut appeler, des parcs où ces activités ne seront pas faites.
Et comment détecter la présence d'une nappe phréatique? C'est sa troisième question. Comment savoir qu'ici il y a une nappe ou là?
Bon, il y a des méthodes de détection par. On envoie des ondes électriques, on peut déceler la présence d'une nappe. Il y a maintenant des méthodes encore plus évoluées avec la télédétection. Donc à l'aide des satellites, on envoie des ondes, on peut dimensionner la nappe, on peut même évaluer, quantifier l'eau qui est dans cette nappe-là.
Ouais. Et maintenant, par exemple, il y a des sociétés qui font les vidanges des fosses septiques et qui prennent tout ça pour aller déverser dans un cours d'eau. Est-ce que cela, plus tard, ne va pas affecter également les nappes phréatiques?
Bien sûr. Bon, ils vont, s'ils déversent dans la rivière, certainement, ça va affecter les cours d'eau concernés. Mais ce sont des comportements illicites qu'il faut réprimer parce que on peut pas jeter dans un cours d'eau des produits censés la polluer.
Normalement, qu'est-ce qu'il devrait faire?
Normalement, il faudrait traiter ces eaux usées dans une station d'épuration et jeter les eaux épurées dans le cours d'eau. Donc, on ne devrait pas jeter dans un cours d'eau des produits polluants, toxiques ou dangereux pour la santé humaine.
Donc, la pollution des nappes phréatiques, en disant que c'est fréquent dans notre pays, surtout dans la ville province de Kinshasa.
Oui, parce qu'au départ, il y a un problème de prise de conscience. Parce que quand les gens le font, parfois c'est innocemment. Sans savoir que les actes qu'ils posent nuisent à leur environnement et que par ricochet, ça leur revient comme un boomerang.
Et ça provoque beaucoup de maladies.
Et ça provoque beaucoup de maladies. Après, ce sont les sorciers, ce sont les tantes, les oncles qui sont responsables.
Mais généralement, est-ce qu'il y a beaucoup de gens à Kinshasa, par exemple, qui consomment l'eau provenant des nappes phréatiques, des sources?
Bien sûr, il y a des quartiers où l'addiction d'eau par la régie des eaux n'existe pas. Hein, quand vous prenez tous ces quartiers périphériques de la ville, quand vous prenez les différents villages qui sont dans les communes de Maluku, Nselé, il y a des gens qui puisent de l'eau à plusieurs kilomètres, parfois à partir de la nappe phréatique.
Voilà, et sous forme de puits. Hein,
oui, sous forme de puits.
Où on va puiser de l'eau.
Oui, on puise de l'eau.
Ou les sources. Hein, oui, là, c'est l'eau, sans effort, vous avez l'eau qui
oui,
sort.
Oui, l'eau qui sort, mais parfois c'est un problème aussi. Hein. Nous avons des sources autour des cimetières. Nous avons le cas du cimetière de Guimantique, où il y a une source.
Il y a une source à côté.
Oui, il y a une source à côté, les gens puisent de l'eau. Mais des études faites, nous avons eu une étudiante qui a fait un travail là-dessus. Et d'ailleurs, il y a même plusieurs études qui ont été faites dans ce sens, qui prouvent à suffisance que cette eau est polluée. Donc, normalement, il fallait interdire à la population de la consommer.
Elle est polluée par les cadavres ou,
bien sûr, les corps humains qu'on a enterrés après plusieurs mois de décomposition. Mmh. Vous comprenez que s'il y a pluie, infiltration de l'eau, vent dans la nappe, et la nappe sera polluée.
Mais les gens continuent à puiser cette eau, là.
Oui, à leur risque et péril.
Mais pourquoi ne pas carrément interdire la consommation au lieu de laisser les gens pour continuer à puiser l'eau là-bas?
Normalement, c'est ce qui serait fait, ce qui doit être fait pour que la population soit épargnée de certaines maladies d'origine hydrique.
Mais qui doit prendre la décision? Parce que cela n'est pas fait. Les gens continuent à puiser cette eau.
Oui, bien sûr. Après ces études, on doit communiquer le résultat de ces recherches aux autorités compétentes pour que ces dernières soient alertées et puissent prendre des mesures nécessaires.
Comment prévenir la pollution des nappes phréatiques? On en parle avec Théodore Le Cacao, chargé d'études en environnement au ministère provincial du Plan et Travaux publics, Ville-Province et Kinshasa.
Au Congo, l'économie de tous les jours, c'est l'affaire de tous. Chaque samedi à 12h30 heure de Kinshasa, Radio Okapi vous propose le panorama économique. C'est le résumé de l'actualité de la semaine. La vie des marchés, le développement des entreprises, l'équilibre du monde rural, les bonnes initiatives, une nouvelle tendance. Reportage sur le Congo qui bouge dans toutes les provinces. Le samedi de 12h30 à 13h, 30 minutes pour explorer le panorama économique de la RDC.
Comment prévenir la pollution des nappes phréatiques? Théodore Le Cacao, si on revient par exemple dans les zones minières, comment doit se faire la prévention?
Bon, la prévention d'abord c'est d'expliquer, de sensibiliser la population au risque des eaux usées qu'ils jettent dans la nature et qu'ils vont polluer la nappe phréatique. Et ensuite, pouvoir offrir à cette population une eau un peu plus propre. Parce que ça ne sert à rien d'interdire si on ne peut pas donner une solution de réchange. Mmh. Donc il faut donner une solution de réchange et expliquer à la population de ne plus jeter dans la nature des eaux usées et mettre en place des stations aussi d'épuration de ces eaux pour qu'on puisse rejeter de l'eau propre dans la nature au lieu où on rejette de l'eau toxique qui va nuire à la santé de la population. Mmh. Alors, il y a aussi la mise en place des services de contrôle, services d'hygiène, services d'assainissement, qui vont pouvoir vérifier toutes les activités, la qualité des activités industrielles qui sont faites dans le secteur.
Autre chose?
Bon, l'éducation, bien sûr, j'ai repris l'éducation mésologique de la population,
oui,
sur l'hygiène et l'assainissement du milieu. La mise en place des structures efficaces de gestion des déchets et la construction aussi des réseaux d'égouts pour évacuer les eaux usées des différentes communes. Parce que si les égouts sont bouchés et tout ça, les eaux usées vont couler dans la nature et vous comprenez ce que ça fait, ça va petit à petit s'infiltrer et puis polluer la nappe.
Même les inondations, les quartiers inondés, l'eau s'infiltre.
Bah oui, au bout d'un certain temps, l'eau va s'infiltrer et puis, disons, polluer la nappe. Et bien sûr, il faut élaborer des normes d'hygiène et d'assainissement opposables à tous. Et dynamiser les services urbains d'hygiène et d'assainissement.
Mmh. Nous avons un auditeur en ligne, Alphonse Boudril, depuis Ngokolo, en Ituri. Bonjour Alphonse.
Bonjour Jeudi, bonjour à l'invité, bonjour à tous les auditeurs. J'ai quelques trois préoccupations. La première est celle-ci. Quelle est la différence entre la nappe phréatique et la nappe aquifère? Il semble que l'invité en approche tout petit peu et je voudrais qu'il revienne. La deuxième question, nous ici à Ngokolo, nous ressourçons à partir de sources d'eau à ciel ouvert. Alors, pendant la saison pluvieuse, l'eau devient rougeâtre. Je voudrais savoir si on peut dire, quand même mener des études, que cette eau est déjà polluée. La troisième question, dans les villages et les centres extra-coutumiers, les WC, qui sont des trous qui mesurent de 7 à 20 mètres de profondeur, partout dans ces milieux-là, on trouve que la fièvre typhoïde bat record. Alors la question est de savoir si la fièvre typhoïde est un indicateur remarquable de la pollution d'eau par les WC, et si tel est le cas, quelle est la précaution à prendre? Et enfin, je voudrais que l'invité revienne sur la préoccupation d'Antoine Moupépé, qui a posé la question à partir de Bukavu, parce que il est parti d'Aru. Il a posé une question importante. Vraiment, je voudrais aussi y revenir si l'invité pouvait encore, parce que je constate que les produits chimiques sont des grands polluants. Nous-mêmes, nous les remarquons ici. Je voudrais encore qu'il revienne là-dessus. Merci, Jody.
Merci, Alphonse. Théodore Lukaka.
Bien. Bon, nappe phréatique, aquifère, c'est la même chose. Hein. On appelle parfois la nappe phréatique un aquifère. Donc, c'est la même chose. C'est un problème de terminologie.
Mmh. Bon, la couleur... Il a parlé des sources d'eau à ciel ouvert, et pendant la période pluvieuse, ça change de couleur.
Oui, ça a une couleur rougeâtre.
Est-ce que cette eau-là est toujours potable? Est-ce qu'elle n'est pas polluée à ce moment-là?
Les caractéristiques de l'eau potable, c'est une des caractéristiques de l'eau potable.
Incolore,
d'être incolore.
Oui.
Mais quand il y a une coloration, c'est qu'il y a présence d'une substance étrangère qui peut ou ne pas être nocif à la santé humaine. Donc, il faut identifier la substance. Est-ce que c'est du fer? Est-ce que c'est quel produit? Et à ce moment-là, on peut voir...
Alors, quand on se retrouve devant une telle eau, il ne faut pas la prendre. Il ne faut pas la consommer tout de suite.
Donc, il y a une précaution à prendre. Ne pas la prendre parce que ce n'est pas une eau propre. Mmh. L'eau doit être propre pour qu'elle soit consommable.
Voilà, ce n'est pas une eau propre. Oui. Alors, il a parlé également des toilettes. Mmh. Vous voyez, au village, les WC avec un trou de 20 mètres. Et il dit, les gens utilisent des toilettes comme ça. Et puis, il y a la présence de la typhoïde dans la région. Est-ce que cela n'est pas lié à tout cela?
Bon, c'est une hypothèse. En tant que homme des sciences, on ne peut pas parler de l'origine de la présence de ces toilettes comme étant la cause de la fièvre typhoïde observée.
Oui.
Donc il faut s'assurer que d'abord ces toilettes sont en train de polluer la nappe et que les gens buvant cette eau polluée tombent malades. Mmh. Mais on ne peut pas d'emblée parce qu'il y a fièvre typhoïde et qu'on a des toilettes à côté de 20 mètres. Donc les toilettes sont à l'origine de cette fièvre typhoïde.
Mais est-ce que ces toilettes-là n'affectent pas les nappes phréatiques?
Bien sûr.
Parce que c'est déjà à 20 mètres.
Bon, c'est à 20 mètres certainement qu'elles peuvent affecter la nappe. Hein. Mmh. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Bon, il a parlé aussi des produits chimiques qui sont des polluants.
Bon, dans l'agriculture.
Dans l'agriculture, ça, c'est vrai. Bon, c'est reconnu que les produits chimiques utilisés comme engrais dans la fertilisation des cultures sont des polluants qui, s'il y a, disons, pluie, l'eau de pluie en lessivant ces espaces, amène ces produits jusqu'aux rivières et pollue ces rivières. Mmh. Mais alors là, c'est le problème de voir comment récolter ces eaux de ruissellement, les traiter avant qu'elles n'aillent dans les cours d'eau. Donc, il y a un problème de traitement de ces eaux usées d'origine agricole.
Alors, par exemple, pour ceux qui utilisent l'eau provenant des nappes phréatiques, les puits, par exemple, les sources d'eau, comment les entretenir? Parce que cette eau peut sortir déjà infectée, mais on peut la traiter avant de la prendre.
Oui, on peut la traiter. On peut, disons, la rendre potable, comme on dit. C'est-à-dire la dépouiller de toutes les souillures qu'elle a subies au cours de son évolution. Donc ça, c'est... Il y a des méthodes chimiques, il y a des produits chimiques qu'on peut utiliser pour la dépouiller.
Là, est-ce qu'au niveau de la population, des villages, c'est
bon, difficile. Le plus simple, c'est de la bouillir.
La bouillir.
La bouillir, puis au bout d'un certain temps, on peut, après l'avoir refroidi, on peut la consommer.
D'accord. Théodore Lokakao, chargé d'études en environnement au ministère provincial du Plan et des Travaux publics, ville-province de Kinshasa. Merci d'avoir répondu à notre invitation et bon début de week-end.
Je vous remercie aussi.